Bonjour à tous. Série s'intéresse cette semaine aux relations qu'entretiennent les religions et l'argent. La foi et les interdits qui l'accompagnent ont longtemps influencé l'économie. Et si l'on en croit Max Weber, c'est avec la réforme protestante qu'a pu s'épanouir le désir d'accumulation au fondement du capitalisme. Avec la révolution industrielle, la loi du marché se substitue à la loi divine et une nouvelle rationalité se fait jour. Des transformations que les sociologues et les économistes tentent d'appréhender depuis le 19e siècle et que nous allons examiner jusqu'à 15h. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Avant d'explorer demain les comptes du Vatican et de nous pencher jeudi sur les finances de l'islam de France, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Steiner, professeur de sociologie à Sorbonne Université, et Olivier Roy, politiste, professeur à l'Institut Universitaire Européen de Florence, avec nous à distance. En fin d'émission, Xavier Martine nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Philippe Steiner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Olivier Roy va nous rejoindre dans un court instant. Et d'abord, pourquoi les sciences économiques et sociales s'intéressent-elles aux faits religieux, Philippe Steiner ? Parce que les religions ont toujours eu une influence sur l'économie ?
Oui, les religions ont toujours eu une influence sur l'économie, sur la vie familiale, sur la politique, sur la guerre, sur la sexualité. La religion est une forme très prenante, très totale d'une certaine façon, d'organiser la vie sociale. Et donc les sociologues, les économistes, etc., s'intéressent effectivement à ce phénomène majeur de conduite de la vie quotidienne et bien sûr, d'une certaine façon, en tout cas dans le monde contemporain, l'économie est devenue elle aussi une manière de conduire d'une manière systématique notre vie. Et donc le heurt entre économie et religion, ou disons entre vie sociale et religion, est un fait patent dont les sociologues ne peuvent pas se désintéresser.
Ce qui intéresse en particulier les sociologues, c'est que la religion, c'est une organisation collective, sociale.
Oui, alors bien sûr, cette dimension collective de la religion est un point très important, dans la mesure où la religion suppose des pratiques communes de la part des croyants. Elle suppose aussi des passions communes qui vont animer ces croyants et d'une certaine façon aussi des buts communs. Donc il y a tous les éléments de ce que Durkheim appelait une intégration du groupe sont présents dans la religion. Et d'ailleurs, comme nombre d'auditeurs et d'auditrices doivent le savoir, Durkheim avait expliqué que la cohésion justement religieuse était un des facteurs qui pouvait expliquer pourquoi les catholiques avaient un taux de suicide moindre que les protestants, précisément à cause de cette cohésion très forte que la religion, dans sa version catholique, apporte aux croyants.
Alors on va revenir sur Durkheim un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord je voudrais qu'on s'intéresse à cet aspect, le fait que les religions du livre ont longtemps interdit l'usure, et c'est chez Aristote que l'on trouve l'une des premières condamnations du prêt à intérêt.
Avec la monnaie, née des premiers échanges indispensables, naquit aussi la vente, autre forme d'acquisition, excessivement simple dans l'origine, mais perfectionnée bientôt par l'expérience, qui révéla, dans la circulation des objets, les sources et les moyens de profit considérables. Voilà comment il semble que la science de l'acquisition a surtout l'argent pour objet, et que son but principal est de pouvoir découvrir les moyens de multiplier les biens, car elle doit créer les biens et l'opulence. C'est qu'on place souvent l'opulence dans l'abondance de l'argent, parce que c'est sur l'argent que roule l'acquisition et la vente. Et cependant, cet argent n'est en lui-même qu'une chose absolument vaine, n'ayant de valeur que par la loi et non par la nature, puisqu'un changement de convention parmi ceux qui en font usage peut le déprécier complètement et le rendre tout à fait incapable de satisfaire aucun de nos besoins. En effet, un homme, malgré tout son argent, ne pourra-t-il pas manquer des objets de première nécessité ? Et n'est-ce pas une plaisante richesse que celle dont l'abondance n'empêche pas de mourir de faim ? C'est comme ce Midas de la mythologie, dont le vœu cupide faisait changer en or tous les mets de sa table. Ainsi, on a surtout raison d'exécrer l'usure, parce qu'elle est un mode d'acquisition né de l'argent lui-même et ne lui donnant pas la destination pour laquelle on l'avait créé. L'argent ne devait servir qu'à l'échange, et l'intérêt qu'on en tire, lui-même. L'intérêt est de l'argent issu d'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui a le plus contraire à la nature.
Philippe Steiner, qu'est-ce qui fonde la critique du prêt à intérêt chez Aristote, critique que l'on retrouve dans les trois monothéismes ?
Ben c'est ce paradoxe qu'évoque très bien Aristote à propos de la mythologie du roi Midas, c'est-à-dire que l'argent qui paraît être la chose qui permet de satisfaire tous les besoins se trouve réduit à elle-même, ne servira à rien. Et donc là, il y a une espèce de paradoxe qui est la plus grande richesse se trouve être finalement associé éventuellement à la misère si jamais il n'y a pas des productions de biens matériels dont on a l'usage par ailleurs. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui est marquant. Cela étant, je pense que là, Aristote pose un problème, un paradoxe, qui est effectivement important et qui demeure jusqu'à nos jours, mais il faudrait pas prendre, je pense, cette série de formules qu'on va retrouver chez les monothéismes, effectivement, en tout cas, interdiction du prêt intérêt dans la religion musulmane, interdiction de l'usure dans le cas de la réflexion des scolastiques. Néanmoins, toutes ces religions laissent passer des modalités de comportement dans lesquelles un gain peut être obtenu quand on prête de l'argent. Donc il y a une réalité, en quelque sorte, de la pratique commerciale qui va quand même s'imposer au fil du temps.
Alors, il y a les contournements, qu'on va effectivement en parler, mais il y a aussi différentes règles selon les religions. Par exemple, dans le judaïsme, en effet, il y a une interdiction de prêter avec intérêt aux juifs, mais pas aux étrangers. Pourquoi cela, Philippe Steiner ?
Oui, c'est la double morale. On revient à ce que vous disiez, ce que vous évoquiez tout à l'heure, à propos de la cohésion qu'offre la religion, et une des manières de manifester cette cohésion, c'est d'empêcher que cette pratique d'usure s'applique aux co-religionnaires. De la même façon, si vous voulez, que dans l'Athènes classique, on a interdit à un Athénien de réduire en esclavage un autre Athénien. Donc cette manière de faire la cohésion se manifeste ici par l'interdiction du prêt-intérêt.
L'idée de faire communauté, c'est aussi la même idée du côté de l'Église catholique, où l'usure est condamnée par plusieurs conciles, dont celui de Latran en 1179, Philippe Steiner.
Je pense, oui. Et puis, il y a aussi, enfin, cette raison de communauté est importante, mais il y a aussi le fait de réagir à des moments de croissance économique et de déploiement, comme je le disais un petit peu précédemment, de règles de conduite de vie liées à l'argent qui s'opposent de fait aux règles de conduite de vie guidées par la foi, par la recherche du salut.
Alors, effectivement, seuls les juifs peuvent pratiquer cette activité de prêt à intérêt après que le pape Alexandre III qui excommunie les chrétiens qui travaillaient avec l'argent au XIIe siècle. Et donc, il va y avoir, s'ouvre ainsi une période où ce sont effectivement principalement les juifs qui ont la possibilité de prêter.
Parce qu'ils sont exclus effectivement de la communauté des chrétiens. Et donc, ce point de vue-là, il va y avoir dans les interstices des sociétés, alors ce sera les juifs, mais ça pourra être éventuellement d'autres sous-catégories sociales qui vont être mises à l'écart et servir effectivement de prêteurs. De la même façon que de nos jours, d'une certaine façon, on a des pays qui sont un petit peu à l'écart en ce qui concerne des règles de transparence des financements, des règles de gestion des évitements fiscaux, etc., etc. Donc on a toujours cette situation. Une règle et des échappatoires.
Et la peur de l'endettement dissimule effectivement une autre peur, celle de ne plus s'appartenir, d'être esclave.
C'est bien ça le problème, c'est que une des grandes questions, mais la politique à ce moment-là, c'est à partir de quel moment on peut se racheter en quelque sorte en devenant esclave de quelqu'un pour faute d'avoir pu payer ses dettes. Esclave ou éventuellement on met une partie de la famille comme gage en quelque sorte, ce qui revient en fait à créer des situations d'esclavage ou de servage extrêmement pénibles et douloureuses politiquement. C'est pas pour rien que j'évoquais le cas de la Grèce antique et de cette interdiction de transformer un concitoyen en esclave.
Et par rapport à ce lien entre économie et communauté, Philippe Steiner, est-ce qu'on n'entrevoit pas déjà cette idée de la monnaie qui s'appuie sur un système de foi, de croyance, une monnaie qui ne peut exister que si ceux qui l'utilisent croient en elle ?
Alors ça, c'est une remarque effectivement très très juste que vous faites, mais là je pense qu'on fait un saut de l'Antiquité à la modernité, je dirais, dans la mesure où c'est une des thèses qui a été posée par un économiste durkheimien, justement, François Simion, hein, selon lequel la monnaie, le fonctionnement de la monnaie suppose ce qu'il appelle une foi sociale. C'est-à-dire, si je le comprends bien, cela suppose la continuité de l'existence de la société sans laquelle la monnaie, comme le disait Aristote, n'a plus aucune valeur. Les euros que nous avons dans les poches, si jamais l'Europe telle que nous la connaissons disparaît, seront des bouts de papier qui n'auront aucune valeur, si ce n'est éventuellement sentimentale ou de souvenirs historiques.
Alors Olivier Roy vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a commencé à parler de l'influence des religions sur l'économie et de l'interdiction de l'usure ou du prêt à intérêt dans les religions du livre. Dans le Coran, on retrouve également des sourates qui condamnent l'usure. Écoutez cela. Ceux qui se nourrissent de l'usure ne se lèveront que comme se lève celui que Satan a violemment frappé. Il en sera ainsi parce qu'il disait « La vente est semblable à l'usure, mais Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure. Celui qui, ayant reçu une exhortation de son Seigneur, cesse de pratiquer l'usure, peut conserver ce qu'il a déjà gagné et son cas relève de Dieu. Mais ceux qui recommencent à pratiquer l'usure sont les hôtes du feu où ils demeureront à jamais. » Olivier Roy, la condamnation de l'usure par l'islam participe de cette même volonté de faire communauté que l'on retrouve dans les autres monothéismes ?
Disons, c'est pas tellement faire communauté, c'est une injonction individuelle, c'est-à-dire c'est un appel au comportement éthique de l'individu. Il n'y a pas du tout l'idée de créer un système économique qui gérerait la communauté. Donc les trois grandes religions monothéistes sont sur le même plan de ce niveau-là. On définit l'action économique comme une action individuelle qui doit relever d'une éthique, et donc qui s'inscrit dans des normes. Mais on ne pense pas les résultats, l'impact que ça aurait sur l'ensemble de la communauté. Enfin, le mot économie n'existe pas. On ne voit pas l'économie. On ne voit que l'action d'acheter, de vendre, de produire individuelle.
Et donc il y a dès le départ cette idée de moraliser cette action.
C'est essentiel. C'est donner une norme à l'action individuelle. Et nous, on relie ça après en termes économiques, parce que évidemment, à partir du 19e siècle, l'économie existe, hein, comme science, mais aussi comme domaine. On pense qu'il y a un domaine économique autonome. Mais c'est une idée tout à fait moderne, tout à fait récente, hein, de la fin du 18e. Avant que vous lisiez saint Thomas d'Aquin, que vous lisiez l'Évangile ou le Coran, c'est toujours une vision éthique, et Aristote aussi d'ailleurs, hein, qui vise à faire que l'individu agisse pour le bien. Hein. Et après, la question qui se pose ensuite, c'est quel est le bien suprême, hein. Voilà, c'est la question d'Aristote qui est reprise dans toutes les religions.
Aristote qui inspire largement Thomas d'Aquin notamment, et plus largement les théologiens scolastiques au Moyen-Âge, qui estime, Philippe Steiner, comme vous commencez à le dire, que certains prêts à intérêt peuvent être autorisés. Alors, selon quels critères ?
Ah, c'est des critères un petit peu, comment dire, qui vont introduire des biais dans la doctrine de l'Église. Et si vous voulez, pour faire simple, je vais prendre un cas qui est discuté justement au XVIIIe siècle, dont parlait juste à l'instant Olivier Roy. Il s'agit de Turgot. Turgot, le grand ministre de Louis XV, qui va effectivement expliquer dans un de ses textes, quand il est intendant, la chose suivante. Je peux gagner de l'argent en louant une maison, mais je n'ai pas le droit de gagner de l'argent en louant l'argent qui m'a servi à acheter cette maison. Où est la rationalité? Où est la cohérence dans le propos? Et on a là justement un des arguments qui permet justement de montrer les difficultés devant lesquelles l'interdiction de l'usure va se trouver placée. Puis il y a une deuxième raison aussi très importante qui montre que cette interdiction est fragile, indépendamment des contournements des gens qui sont appâtés par le gain. C'est la question que pose la réforme protestante, Calvin. Et que se passe-t-il si c'est le pauvre qui a prêté de l'argent au riche? N'a-t-il pas le droit, ce pauvre, de trouver un gain dans le prêt qu'il a fait aux riches?
L'une des façons de résoudre le problème, Olivier Roy, réside dans la notion de risque. L'intérêt est légitime quand il s'agit de compenser un risque ou encore un éventuel dommage?
Oui, en général, alors parfois c'est une rationalisation à prix coût, hein, pour justifier quand même qu'il y ait des prêts et de l'intérêt, parce que s'il y a aucun prêt, aucun intérêt, etc., on peut pas passer à une économie financière. Donc après, on développe toute une morale de la responsabilité individuelle pour justifier que quand même, on peut effectivement pratiquer des formes d'intérêt. C'est ce qu'on voit par exemple aujourd'hui dans ce qu'on appelle la finance islamique, hein, où c'est des grandes banques, pas du tout des petites banques dépendantes de religieux, mais des grandes banques qui vont développer un département de finance islamique, où elles vont tout simplement recycler des produits financiers qui existent dans l'économie capitaliste moderne, mais en les transformant en fonds éthiques, hein, où on aura donc une éthique de la responsabilité, etc., etc.
Et donc dans la finance islamique, il n'y aura pas de carte de crédit, mais uniquement des cartes de débit à cause des intérêts.
Voilà, c'est exactement ça. Et à la fin, évidemment, ça revient au même.
Alors c'est intéressant d'en venir à l'islam et à la finance islamique, mais peut-être avant cela, effectivement, revenons à Calvin au XVIe siècle, qui va légitimer le prêt à intérêt, ouvrant la voie à l'essor de l'économie de marché. Et selon lui, comme n'importe quelle marchandise, Philipp Steiner, l'argent est productif et donc il est légitime que le créancier reçoive sa part de cet enrichissement.
Mais oui, notamment pour la raison que j'ai évoquée là, de cette inversion en quelque sorte entre le prêt du riche au pauvre, du pauvre au riche. Et en posant cette question, Calvin soulève l'idée que finalement le prêt ne veut pas dire asservissement de celui qui reçoit le prêt. Au contraire, c'est quelque chose qui va lui permettre de développer son activité économique. Et puis il y a une deuxième chose aussi, je pense, qui est importante avec la réforme, surtout sous sa forme calviniste, et qui a été bien étudiée par Max Weber, dont bien évidemment on va parler.
On va y revenir.
Puisque dans ce cadre-là, l'idée qui est avancée, c'est que le monde a été créé par Dieu et offert aux hommes pour que ce monde soit embelli, enrichi par l'activité humaine. Et donc, si la monnaie est nécessaire pour ce genre d'embellissement, d'accroissement, de bon ménagement, comme on le dit en français à l'époque, de cette richesse offerte par Dieu, eh bien, il est nécessaire et utile de la mettre en œuvre.
Mais si le prêt à intérêt est autorisé, Olivier Roy, est-ce que ce n'est pas un nouveau rapport au temps qui apparaît, avec la possibilité d'une anticipation et la perspective d'un pari sur l'avenir?
Oui, c'est l'argument d'ailleurs que donne Max Weber pour expliquer ce qu'il appelle une affinité, hein. Il dit pas causalité, il dit une affinité élective entre calvinisme et finance. Hein. La question, savoir si Weber ne fait pas un peu de rationalisation après coup, parce que repousser un bénéfice proche pour en faire un plus grand lointain, c'est pas les calvinistes qui ont inventé ça. Les banquiers de Florence se débrouillaient très très bien sur ce sujet-là. Mais on voit dans le fond comment la religion va non pas inventer de nouvelles formes de commerce, ça je pense pas du tout, mais va fournir une justification théologique à des pratiques qui se sont mises en place de toute façon.
Vous partagez cette idée, Philipp Steiner, d'une justification a posteriori
S'il s'agit de Max Weber, on peut effectivement interpréter son texte de cette manière-là, d'autant plus que, bon, si on rentre dans les détails, Weber traite plutôt du calvinisme du XVIIe siècle que de celui de Calvin lui-même. Ça, c'est une chose bien, bien acquise. Et donc, il y a une façon de sa part de prendre en compte ce que les prêcheurs du XVIIe siècle vont dire et qui, effectivement, vont peut-être rationaliser le message initial de la réforme. C'est exact, mais il n'en reste pas moins qu'il donne quand même un certain nombre de textes et qui portent sur un point, je crois, que j'ai essayé de souligner dès le début, qui est le fait que la religion a quelque chose de très spécifique en ce sens qu'elle définit une série de normes qui s'appliquent à l'ensemble de la vie. Et qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a une émergence dans la vie sociale par l'intermédiaire de cette croissance économique qui commence à partir du XVIe siècle, c'est le repère habituel que l'on prend pour le capitalisme moderne, eh bien on voit émerger des comportements qui se diffusent dans la société ou qui menacent de se diffuser. Et à partir de ce moment-là, la question se pose de savoir quel est le bien suprême. Est-ce que c'est celui de chercher le salut, ou bien est-ce qu'il va falloir aussi composer avec cet autre bien suprême qui est l'enrichissement? Et l'enrichissement à la fois individuel et collectif. Parce qu'on rentre dans une logique de guerre, de conquête, c'est le colonialisme qui commence, et donc là, l'argent devient un élément de la puissance.
Olivier Roy, vous parlez d'une nécessité de justifier des pratiques, parce qu'en effet, comme on le disait, il y a de nombreux contournements à cette interdiction du prêt à crédit. Vous avez parlé de la finance islamique, on peut aussi parler du monde de piété. On se rend compte que tout au long de l'histoire économique, même si on ne parlait pas encore d'économie, on n'a pas cessé, en effet, de prêter à crédit en réalité.
Oui, oui, je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La religion ne pense pas l'économie en tant que telle, c'est-à-dire comme un système global, autonome, etc. Mais il y a bien un moment où l'économie existe, hein, où il y a des soit par le développement d'activités marchandes, soit parce que à la fin du 18e, il y a des gens qui ont inventer, si je peux dire, le concept d'économie et montrer comment cette économie se développe de manière autonome. Alors à ce moment-là, le religieux est bien obligé de dire quelque chose. Et ça va bien au-delà de la question de l'usure. Dans l'Église catholique, bon, c'est une banalité ce que je veux dire, mais c'est l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII à la fin du 19e qui va reconnaître que les activités économiques sont pas simplement une juxtaposition d'actes bons par des individus croyants, mais qu'elles constituent un ensemble et qu'il faut que l'Église parle de cet ensemble et ne s'applique pas, disons, à demander simplement le respect de certaines pratiques ou certains interdits portant sur des éléments de cette économie. Il faut penser l'économie dans sa globalité. Et là, le bien, ça n'est plus simplement le salut de l'individu, c'est le salut de la société, c'est le bien commun. Hein. Et c'est une idée qui se développe précisément avec le développement de l'économie.
Alors justement, je voudrais vous faire entendre Monseigneur Jacques Delarue, qui était invité de l'émission L'Heure de Vérité le 2 juin 1975 et qui dénonce un argent qui serait devenu une nouvelle religion.
Nous vivons dans un monde dans lequel l'argent commande tout. Celui qui en a peut tout se permettre. Or, l'Évangile nous dit que l'argent, c'est l'ennemi numéro un. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'un comme l'autre sont totalitaires. Personne ne peut servir de maître. Alors, nous constatons que dans ce monde dans lequel l'argent est la valeur numéro un, on pourrait s'attendre à ce que les chrétiens fassent choc. Or, effectivement, l'Église apparaît comme faisant choc par rapport à ces questions de l'argent et comme faisant choc à l'envers de l'Évangile, comme ayant partie liée aux puissances de l'Évangile. Et je pense que cette prise de conscience explique en grande partie, ne justifie absolument pas toutes sortes de violences avec lesquelles je ne suis pas plus d'accord que vous, mais explique en grande partie cette espèce de mauvaise conscience qui se traduit par des gestes élémentaires comme d'aller faucher des confitures chez Fauchon pour les distribuer dans les bidonvilles, ce qui n'est évidemment pas la solution, mais qui nous impose de ne pas accepter purement et simplement, comme lié par des lois économiques auxquelles personne ne pouvait rien, un monde dans lequel la valeur première, c'est l'argent et c'est pas l'homme.
ce que l'on entend bien ici, Philippe Steiner, c'est comme l'économie travaille la religion, et en l'occurrence la religion catholique.
Oui, oui, oui. Alors j'ai été fasciné par le passage là, que vous venez de, l'extrait que vous venez de donner. Dans la mesure où ça me faisait revenir à l'esprit des textes des penseurs de la fin du XVIIe siècle, XVIIe siècle, notamment Nicole, et qui justement ont montré dans un passage assez abyssal en quelque sorte que si on va dans la société, qu'on utilise l'argent, etc., face à quoi on se trouve ? On se trouve face à des individus égoïstes qui ne cherchent qu'à gagner. Et pourtant, dit-il, et c'est là le fondement en quelque sorte qui va donner lieu à l'économie politique française fin 17e, début 18e, et pourtant les gens disent, finalement, si on avait un peuple d'anges qui servait les autres, qui se servait mutuellement, ça serait pareil. Et donc il y a quelque chose qui émerge et que les intellectuels religieux perçoivent très bien, très tôt même, peut-être avant même les économistes à proprement parler, c'est le fait que l'économie a un ordre. Et que cet ordre, d'une certaine façon, lorsqu'il est bien organisé, il est presque indiscernable, à part cette passion interne, in foro interno, comme on dit à l'époque, qui anime égoïstement le comportement des individus. Mais malgré tout, il y a un ordre qui sert les individus. Voilà, vous vous présentez à l'aubergiste au fond de la forêt, à l'orée de la nuit. Eh bien, celui-ci va vous servir un repas et vous lui donnez simplement quelques petites pièces d'or. Et ça suffit pour que les individus se mettent à votre service. C'est remarquable.
Il y a cette idée, Olivier Roy, d'une bonne économie et non d'une économie où l'individu ne chercherait que son plaisir et désir personnel.
Oui, bien sûr. Hein. Cette vision éthique de l'économie, elle va se développer, encore une fois, à partir du moment où les religions sont obligées de constater cette autonomie du monde économique. Et là, on passe de la vision, strictement morale, à une vision collective, à une vision éthique. Ça s'est fait donc pour le christianisme avec Rerum Novarum. Dans l'islam plus tard, le concept d'économie islamique, on le voit apparaître dans les années 50, 1950-1960, alors qu'il était absent. Un bon exemple, par exemple, dans le monde islamique, c'est Khomeini. Quand Khomeini fait sa thèse, donc en 1942, hein, sa thèse pour devenir Hujjat al-Islam, pour rentrer, il y a un chapitre sur la vente et l'achat, hein, c'est-à-dire la licéité des actes de vendre et d'acheter. Point. Le mot économie n'apparaît jamais. 20 ans plus tard, il se fait le promoteur de l'économie islamique qui est censée assurer la justice et qui est, dans sa vision à lui à ce moment-là, une économie très très sociale, hein, très très socialiste, je dirais, avec un fort contrôle de l'État. Donc en 20 ans, chez un même personnage, bon, qui a joué un grand rôle politique, bien entendu, on a un changement de paradigme total.
Alors comment cette nouvelle rationalité, économique émerge-t-elle et émerge-t-elle à partir d'une autre rationalité qui serait la rationalité religieuse ? On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Et si en plus, il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, qu'il y a tant de torpeurs de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus.
Et si en plus il n'y a personne, d'Alain Souchon sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, nous poursuivons notre discussion sur les liens entre religion et économie avec le sociologue Philippe Steiner et le politiste Olivier Roy. Alors c'est une nouvelle rationalité qui émerge avec l'émergence, l'apparition du capitalisme, une rationalité économique qu'il ne faudrait pas opposer à la religion, à Philippe Steiner. Il n'y a pas la religion d'un côté et la raison de l'autre.
C'est un sujet extrêmement complexe et dans un premier temps, suite à ce que l'on a dit dans la première partie de l'émission, il y a bien cette tension, cette opposition entre la définition du suprême bien religieux d'un côté, économique de l'autre. Ça, c'est une réalité qui est évidente et très forte. Mais je crois qu'il y a des liens en fait qui rapprochent aussi également la religion de l'économie et notamment cette question suprême pour l'économiste qui est celle de la rationalité. Et je voudrais faire un bref rappel sur un auteur très particulier, à la fois un grand savant et un homme de religion également, un homme de politique, c'est Leibniz en Allemagne. Et Leibniz, comme on le sait, est un des inventeurs du calcul différentiel et intégral, c'est quand même pas rien, c'est la mathématique superbe, le supérieur de l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, dans son traité de Théodicée, c'est-à-dire défense de l'œuvre de Dieu, il dit, ben effectivement, si Dieu a créé le monde tel qu'il est, eh bien, c'est le meilleur des mondes possibles. Et il emploie à ce moment-là une formulation qui devait être opaque pour nombre de ses lecteurs, mais qui est très claire pour nous, c'est que si Dieu a créé ce monde-là, c'est parce qu'en quelque sorte, il y a un maximum quelque part, là où c'est le mieux possible. Il y a des défauts, mais si on sortait de cet état qui a été créé par Dieu, cet état du monde créé par Dieu, eh bien, il y aura encore plus de défauts. Donc,
une espèce d'optimum de Pareto.
Font partie de cette grandeur de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, il dit, l'homme sage dans la vie quotidienne, donc dans sa vie d'artisan, de commerçant, de marchand, eh bien, il doit faire comme Dieu, il doit chercher le maximum. Or, cette idée, maintenant, c'est celle qui est au cœur de la théorie économique. L'homo economicus est un maximisateur forcené de son utilité tout au long de sa vie. Et donc là, il y a un lien direct de la rationalité divine, telle que Leibniz la pense, et de la rationalité économique.
Qu'est-ce que vous pensez, Olivier Roy, de cette idée d'une rationalité des Lumières qui serait née dans le cadre de la pensée religieuse?
C'est les Lumières mêmes, parce que les Lumières, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne sont pas anti-religieuses en soi. Elles sont, c'est de repenser le religieux sous l'angle de la raison, mais pas du tout de nier l'existence de Dieu ou de d'ignorer la théologie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une négation de la rationalité religieuse chez les Lumières?
Pardon?
Est-ce qu'il n'y a pas une négation de la rationalité religieuse du côté des Lumières?
Il s'agit plutôt d'extraire la rationalité religieuse que les clergés ne veulent pas voir, quoi. Mmh. En gros, c'est de dire les prêtres ne comprennent rien à la religion, mais nous, les philosophes, nous allons leur expliquer quelle est la nature, la vraie nature de la religion, dans une vision totalisante de la société. C'est-à-dire là, on a au 18e, on a des philosophes qui pensent tout penser ensemble. Et c'est très important. Donc, il faut effectivement qu'ils fassent une théodicée, qu'ils intègrent l'œuvre de Dieu dans leur vision du monde et de la société. C'est parfaitement cohérent. Hein. Je ne connaissais pas cette dimension là chez Leibniz sur le rapport entre économie et mathématiques, si je peux dire, mais je trouve ça très très intéressant.
Très intéressant, en effet, aussi de voir que c'est au XVIIIe siècle que ce concept d'économie et notamment son autonomie par rapport à d'autres sphères apparaît. Et la science économique, Olivier Roy, se construit sur cette idée qu'il existe une loi du marché comme il existe des lois naturelles, finalement.
Oui. Oui, bien sûr. Hein, ça, c'est tout l'apport. Alors, je ne suis pas un historien des sciences. Hein, donc, quand est-ce que le terme a été utilisé pour la première fois, par qui, etc. Ça, je suis totalement incompétent. Mais on voit arriver sur le marché à la fin du 18e cette notion d'économie et qui va se développer qu'Adam Smith et Marx après. Bon, enfin, toute la pensée après va s'inscrire dans ce cadre-là. Il y a une autonomie de l'économie avec ses lois propres. Ces lois de l'économie sont connaissables, la religion là n'a plus rien à voir avec l'économie. Ce qui fait que la religion va réapparaître, enfin va se manifester, soit en imposant à l'économie, à cette vision économiste, des fins supérieures, hein, encore une fois c'est Rerum Novarum, soit en contestant justement la racine même de l'économie, c'est-à-dire l'argent. Et là c'est l'interview que vous avez cité tout à l'heure.
Ce qu'on comprend bien, Philippe Steiner, c'est que si les Lumières veulent conserver, si je puis dire, la rationalité présente dans la religion, en revanche, quand l'économie se construit, elle n'a besoin ni de la religion, ni du politique.
Alors c'est une question compliquée, parce que la rationalisation actuelle nous pousse à penser dans ce biais-là, de cette manière-là. Lorsqu'on examine un petit peu ce qui se passe 18e et début 19e, les choses sont moins claires dans la mesure où, par exemple, si on prend le cas français avec la fameuse école contemporaine d'Adam Smith d'ailleurs, des physiocrates, on a chez eux une référence très importante qui est faite à Malebranche, hein, c'est un homme d'église très important qui connaît, côtoie littérairement Leibniz, et Malebranche décrit un ordre, et cet ordre social, c'est le fondement de l'activité économique pour les physiocrates. Donc il y a bien quelque chose qui montre que cette idée d'ordre est transportée de la religion vers l'économie. Mais une fois que ceci est fait, effectivement, les questions religieuses n'interviennent pas, ne doivent pas perturber le fonctionnement du circuit économique, de la production, etc. Ça, c'est clair.
Si l'économie se distancie de la religion, les sciences sociales, elles cherchent à penser le fait religieux, en particulier l'un des fondateurs de la sociologie moderne, Émile Durkheim, qui publie en 1912 « Les formes élémentaires de la vie religieuse », extrait.
Pour peu que les cérémonies religieuses aient d'importance, elles mettent en mouvement la collectivité. Les groupes s'assemblent pour les célébrer. Le premier effet est donc de rapprocher les individus, de multiplier entre eux les contacts et de les rendre plus intimes. Par cela même, le contenu des consciences change. Pendant les jours ordinaires, ce sont les préoccupations utilitaires et individuelles qui tiennent le plus de place dans les esprits. Chacun vaque de son côté à sa tâche personnelle. Il s'agit avant tout, pour la plupart des gens, de satisfaire aux exigences de la vie matérielle, et le principal mobile de l'activité économique a toujours été l'intérêt privé. Sans doute, les sentiments sociaux ne sauraient en être totalement absents. Nous restons en rapport avec nos semblables. Les habitudes, les idées, les tendances que l'éducation a imprimées en nous et qui président normalement à nos relations avec autrui, continuent à faire sentir leur action. Mais elles sont constamment combattues et tenues en échec par les tendances antagonistes qu'éveillent et qu'entretiennent les nécessités de la lutte quotidienne. Quand les Australiens, disséminés par petits groupes, chassent ou pêchent, ils perdent de vue ce qui concerne leur clan ou leur tribu. Ils ne pensent qu'à prendre le plus de gibier possible. Au jour férié, au contraire, ces préoccupations s'éclipsent obligatoirement. Essentiellement profanes, elles sont exclues des périodes sacrées. Ce qui occupe alors la pensée, ce sont les croyances communes, les traditions communes, les souvenirs des grands ancêtres, l'idéal collectif dont ils sont l'incarnation. En un mot, ce sont des choses sociales.
Ce texte est parlant à bien des égards. On comprend que ce qui définit le fait religieux pour Émile Durkheim, c'est la séparation entre sacré et profane, Philippe Steiner.
Oui, ça c'est une thèse fondamentale de l'œuvre de Durkheim. Le monde est divisé en deux, il y a les choses profanes, qui donne lieu à des formes d'activité, comme le texte là qui vient d'être cité le mentionne. On cherche donc en gros à satisfaire son utilité, parce que c'est une réalité auquel on ne peut pas ne pas se soumettre. Mais par ailleurs, il y a des moments de rassemblement qui vont être des moments festifs, des moments d'ailleurs dans l'autre passage très proche de celui qui est cité, qui va être qualifié par Durkheim d'effervescence collective. Hein, c'est le moment du rassemblement. Et ce rassemblement produit quelque chose sur les esprits des individus. Et Durkheim considère qu'il y a effectivement une séparation très forte dans la vie sociale, y compris moderne, entre la vie économique, la chose profane, et la vie religieuse, les choses sacrées. Hein, donc ça, c'est effectivement très important. Alors, la difficulté que l'on peut avoir par rapport à ce texte, par rapport à cette thèse très forte, elle tient au fait que, à l'heure actuelle, dans notre monde moderne, cette séparation me paraît beaucoup plus difficile à tenir. Pour prendre dans une festivité, un rassemblement, qu'il soit religieux ou purement festif, il n'y en a plus en ce moment, mais bon, supposant qu'ils reviendront à un moment ou à un autre, eh bien, il y a quand même des gens qui travaillent, il faut s'alimenter, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, donc il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des bars, etc. Et tout ça, ce sont des gens qui travaillent au moment des rassemblements.
Mais est-ce que pour Durkheim, Olivier Roy, il n'existe pas tout de même des liens entre économie et religion? Il voit de la spiritualité dans l'économie à travers notamment le pouvoir conféré par l'argent.
Disons que pour lui, et c'est, j'allais dire, pour les sciences humaines en général, la religion est tout sauf de la religion, sauf de la pure religion. Exactement, il considère que la pure religion, c'est en dehors du champ d'étude. Donc la religion, c'est un peu pour Durkheim la société qui se pense elle-même en se mettant à distance d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on va, on parle aujourd'hui, surtout en France et en français, du fait religieux plutôt que de la religion. Et on va penser la religion sous toute une série de dimensions, comme culture, comme institution, comme psychologie, comme idéologie, etc., qui sont chaque fois évidemment pertinents, hein, bien sûr, mais où on manque, je dirais, l'autonomie du religieux. Et alors, à ce moment-là, enfin, on voit apparaître comment la religion est pensée comme culture, donc comment l'influence du religieux dans l'économie est pensée, dans le fond, comme un phénomène culturel. Et là, les anthropologues, les sociologues sont beaucoup plus à l'aise, hein, dans cette transformation, ce glissement de la religion à une culture.
Et alors, c'est un autre sociologue, Max Weber, qui va rétablir le lien entre la sphère économique et la sphère religieuse. Je vous propose d'écouter un extrait des toutes premières pages de son œuvre fondatrice, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, paru en 1904.
Un coup d'œil sur les statistiques professionnelles d'un pays de confession mixte suffit généralement pour constater la fréquence remarquable d'un phénomène qui a souvent été commenté avec humeur dans la presse et les publications catholiques et dans les congrès catholiques d'Allemagne. Le caractère très majoritairement protestant des détenteurs de capitaux et des chefs d'entreprise, ainsi que des couches supérieures qualifiées de la main-d'œuvre, notamment, dans les entreprises modernes, du personnel technique ou commercial hautement qualifié. Ce n'est pas seulement lorsque la différence de confession coïncide avec celle des nationalités et, par suite, avec celle des degrés de développement culturel, comme à l'est de l'Allemagne, entre les Allemands et les Polonais, que ce phénomène est perceptible dans les statistiques des confessions. Mais pratiquement partout où le capitalisme, à l'époque de son expansion, a eu le champ libre pour imposer en fonction de ses besoins une certaine stratification sociale et une certaine répartition professionnelle de la population. Plus cette influence s'est fait sentir, et plus le constat est patent. Il est vrai que la prédominance relativement forte des protestants, eu égard à la place qu'ils occupent dans la population totale, parmi les détenteurs du capital, dans les postes de direction et au sein de l'élite des grandes entreprises industrielles et commerciales modernes, est pour une part liée à des raisons historiques qui remontent à un passé ancien et qui font apparaître l'appartenance confessionnelle non pas comme la cause de ces phénomènes économiques, mais plutôt, jusqu'à un certain point, comme la conséquence de ces derniers.
Philippe Steiner, quel est ici le point de départ de la réflexion de Max Weber qui va l'amener à sa fameuse thèse selon laquelle l'éthique protestante a favorisé le développement du capitalisme ?
A été un des facteurs qui a favorisé parmi beaucoup d'autres, hein. Donc il faut être très prudent dans l'interprétation de Weber. Alors il me semble que les interprétations ont pu diverger. À l'heure actuelle, on retient l'idée selon laquelle le protestantisme ascétique va développer l'idée que, eh bien, le fait d'avoir une réussite économique confirme en quelque sorte votre statut d'élu. Et c'est l'idée que cet enrichissement qui est basé sur l'activité de l'individu est une façon, non pas d'assurer le salut, mais de dire, là, il y a un petit signe, puisque dans la vision calviniste, le statut de l'individu est déterminé a priori par Dieu, et quoi que l'on fasse, on ne pourra pas le changer. Et donc on recherche le moyen de savoir si on fait partie des élus ou des damnés, d'où cette activité sans cesse de l'individu pour marquer cette confirmation par le succès économique. Mais il ne faut pas jouir de la richesse, il faut réinvestir, et c'est en ce sens-là où, comme le rappelait Olivier Roy tout à l'heure, il y a une affinité élective entre le capitalisme d'une part et l'éthique protestante, ou l'esprit du capitalisme plus exactement, que Marx a très bien résumé d'une certaine manière. Accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Donc, vous enrichissez, mais non pas pour consommer, pour réaccumuler.
Et vous accumulez, effectivement, parce que vous menez une vie ascétique et que vous travaillez avec cette idée que le travail est conçu comme une vocation, Philippe Steiner ?
Tout à fait. C'est quelque chose qui est de se plier, en quelque sorte, à l'œuvre de Dieu, de travailler, d'embellir le monde qu'il nous a donné, précisément pour cela. Et à ce titre-là, effectivement, il y a une continuité entre l'œuvre divine et l'œuvre ici-bas dans le calvinisme ascétique. Oui.
On retrouve cette idée que la richesse est le signe de la grâce aujourd'hui, notamment chez les évangéliques, Olivier Roy.
Dans une catégorie des évangéliques, ce qu'on appelle les tenants de la théologie de la prospérité, qui a beaucoup de succès au Brésil, au Nigeria en particulier. Donc là, on va voir par exemple des pasteurs faire étalage de leur richesse, se promener avec des montres Cartier, des grosses bagues en or et rouler dans des grosses voitures. Ce qui n'est pas du tout weberien, puisque justement dans la mise de Weber, le banquier protestant ne montre pas sa fortune. Hein. Il ne l'étale pas. Tandis que là, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu la théologie des nouveaux riches, quoi, ou des, et ce qui donne lieu à pas mal d'escroqueries, d'ailleurs, il faut bien le dire, puisque pour être membre, il faut d'abord donner au pasteur, bien entendu. Et le pasteur devient de plus en plus riche, ce qui confirme que la théologie de la prospérité fonctionne.
Donc ce que vous nous dites, c'est que ces racines religieuses du capitalisme tendent à s'effacer et cèdent la place à un rapport purement utilitariste à la richesse.
Oui, mais qui va tout à fait de pair avec un libéralisme financier global d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire l'argent fait de l'argent, où on n'est plus dans la production, par exemple, et où la question du rapport aux ouvriers, aux employés, et du rapport aux pauvres ne se pose plus, puisque tout pauvre est un riche en puissance, et s'il ne devient pas riche, c'est que il n'est pas sauvé, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Donc on élimine toute la dimension sociale. Ce qui était au cœur de la doctrine sociale de l'Église catholique, par exemple, et on ne joue que, je ne dirais même pas la prospérité individuelle, mais la spéculation individuelle. Voilà, c'est ça qui est mis en avant. Donc il y a un fond commun, si vous voulez, ils utilisent un peu cette théorie de Max Weber, mais enfin, chez Max Weber, c'était autrement plus subtil, là, et nuancé.
Sur l'héritage aujourd'hui de cette idée, de ces racines religieuses du capitalisme, aujourd'hui, dans les églises protestantes, Philippe Steiner.
Je ne suis pas capable de vous répondre précisément sur ce sujet, mais je donnerai une indication venant de Max Weber lui-même. Lorsque Max Weber fait des études sur le fonctionnement des grandes entreprises industrielles au début du 20e siècle, en 1908-1909, il repère effectivement que certaines ouvrières piétistes travaillent mieux, plus activement, plus énergiquement que les autres, et à ce moment-là, il ne fait aucune référence à leur fondement religieux, aucune. Pour lui, c'est quelque chose qu'il considère comme mort à partir de ce fondement religieux est considéré comme mort à partir de la fin du XVIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, dit-il. Ces croyants deviennent de l'utilitarisme marginal à quatre pattes, en quelque sorte, qui se promènent dans le monde.
On peut dire aujourd'hui, Olivier Roy, que toutes les religions composent ou tentent de composer avec le capitalisme.
Oui, bien sûr. Quitte, bien entendu, à le contester radicalement, comme a pu faire la théologie de la libération, par exemple, dans l'Église catholique, où il reste dans le catholicisme quand même une apologie de la pauvreté qui est absente du protestantisme, par exemple. Mais toutes les religions doivent effectivement se positionner, dire quelque chose. Mais la gamme de ce qu'on peut dire est extrêmement variée. Vous avez, par exemple, des prêcheurs évangéliques américains qui vous expliquent que le système de retraite par répartition, c'est l'œuvre de Satan. Hein. payer trop d'impôts, c'est également l'œuvre de Satan, etc. Et vous avez au contraire ceux qui disent que le riche doit se débarrasser de sa richesse et donner aux pauvres, et si c'est l'État qui assure le transfert, tant mieux. Donc voilà, on peut pas, à partir d'une religion, on ne peut pas définir des comportements économiques particuliers, mais à l'inverse, à partir de certains comportements économiques, on peut trouver des justifications religieuses.
Mais du côté du pape François, par exemple, pour parler de l'Église catholique, il y a un éloge de la sobriété qui n'est peut-être pas nouveau, mais qui est plus appuyé, Olivier Roy.
Ah oui, bien sûr, lui, il est dans la tradition franciscaine, par définition, l'apologie de la pauvreté. Et cette idée que dans le fond, un riche ne peut pas entrer au paradis comme un chameau ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. Hein. La Bible est pleine de ces paraboles où on explique que dans le fond, il faut pas se soucier du lendemain. Hein. On a Matthieu sur les lys qui ne travaillent ni ne filent, donc c'est pas la peine de s'occuper du savoir comment s'habiller. On a notre Père, donnez-nous notre pain quotidien. Il ne s'agit pas du pain mensuel ou du pain annualisé, hein, c'est le pain quotidien. Donc il y a toute une tradition comme ça, spirituelle, surtout dans l'Église catholique, qui fait l'éloge de la pauvreté, qui la considère comme une condition du salut.
Pour conclure, Philippe Steiner, il y a encore, selon vous, tout un champ à explorer pour les sciences économiques et sociales autour de ces liens entre argent et religion ?
Oui, bien sûr, c'est un point, je crois, très important. Malgré la variété des situations que vient de rappeler Olivier Roy, je voudrais en mentionner une que l'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, qui est la question du don, de la charité, par exemple. C'est un motif qui est répété sans cesse, me semble-t-il, en tout cas en France, à l'heure actuelle. Et quand j'ai eu l'occasion de travailler sur la question du don et de l'altruisme, le premier média qui m'a contacté, c'est un média catholique, parce que cette question du don reste très importante. Alors elle peut être aussi détournée par ces gens qui recherchent une réputation mondiale, en quelque sorte, en étant des donateurs magnifiques, avec des fondations, avec des dizaines de milliards de dollars de fonds. Mais il n'en reste pas moins qu'il existe des tas de pratiques quotidiennes de la part des gens qui donnent les uns les autres à des causes différentes et qui font partie d'une certaine manière de cet écho qui est celui de souder la communauté, y compris avec les moyens monétaires.
Eh bien, un grand merci à tous les deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, Olivier Roy et Philippe Steiner. Olivier Roy, je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, « L'Europe est-elle chrétienne ?» paru l'an dernier au Seuil. Et merci également à Antoine Beauchamp qui a prêté sa voix à Aristote, Durkheim et Weber. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Durcissement ou reconfinement face au Covid, le gouvernement s'apprête à réduire encore plus l'activité. Il y a un mois, l'économiste Esther Duflo avait proposé un reconfinement préventif pour sauver Noël. La prix Nobel avait-elle finalement raison ?
Eh bien en tout cas, cette proposition de reconfinement anticipé du 1er au 20 décembre faite par Esther Duflo et Abhijit Banerjee avait été plutôt sèchement reçue. Une partie de la presse a raillé l'incursion d'économistes dans la politique sanitaire. Et les autorités ont répliqué avec vigueur, un ministre balayant des plans sur la comète, un autre rétorquant qu'une prix Nobel d'économie n'est pas épidémiologiste et n'a pas en charge la situation sanitaire du pays.
Les arguments des deux chercheurs n'ont donc pas porté.
Et non, anticipé, disait-il, pour n'avoir pas à annuler Noël au dernier moment, non pas pour sauver les derniers poils de barbe du Père Noël, mais pour préserver la santé et le moral des troupes, et surtout prendre de vitesse l'épidémie qui progresse toujours trop vite. C'était la réponse au « vivre avec le virus » formulée quelques jours plus tôt par Emmanuel Macron. Mais rien à faire, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui prédit toujours un écroulement du pays en cas de reconfinement, se demande si Esther Duflo avait aussi le prix Nobel de psychologie, qu'il a de toute évidence, ton plus courtois mais même réserve chez Bruno Le Maire, qui estimait un reconfinement insupportable psychologiquement, socialement et pour les finances publiques. Voilà donc pour l'atmosphère il y a un mois.
Pourtant, ces derniers jours, l'exécutif change de position et un second long confinement est même très probable.
Oui, une éventualité passée de tabou à tout est possible dans le vocabulaire du gouvernement, résume le Huffington Post. Alors local ou plus large, déclaré ce matin Emmanuel Macron, beaucoup prônent en tout cas des mesures radicales et le gouvernement semble y être résolu. Le maire de Nice, Christian Estrosi, veut même 3 semaines immédiates de reconfinement, écrit-il, pour arriver au mois de décembre et aux fêtes de Noël dans une situation bien meilleure. On croirait presque relire Esther Duflo. D'autre part, l'impact économique d'un reconfinement est en train d'être réévalué. Certes, un couvre-feu coûte 1 à 2 milliards d'euros par mois en compensation et l'arme atomique du reconfinement, comme l'appelle Xavier Timbaud de l'OFCE, brûlerait 2 milliards d'euros par jour. Mais parallèlement, le FMI s'inquiète dans un récent rapport de la distanciation sociale prolongée qui pèse, écrit-il, presque autant sur l'économie qu'un reconfinement en bridant la reprise. C'est le cas en Suède qui n'a justement pas confiné. Or, la baisse du PIB a aussi un coût humain moins visible et qui n'entre pas dans les statistiques du jour.
Mais c'est le dilemme entre l'économie et le sanitaire. Pas de bonne solution, mais peut-être une stratégie plus efficace.
Oui, avec le virus qui persiste, l'alternative n'est plus entre l'économique et le sanitaire, mais entre deux choix sanitaro-économiques risqués, ou bien confiner brutalement pour espérer une reprise à 100%, ou bien tenter d'associer distanciation sociale et maintien des activités essentielles. Dans les deux cas, il faut une stratégie de test efficace qui jusqu'ici a fait défaut en France comme en Europe. Et à la place des mesures au cas par cas, il faut aussi une stratégie à long terme, dit le FMI qui rejoint lui aussi Esther Duflo, car aucune solution d'urgence n'est sans inconvénient et un confinement préventif donnerait une chance de reprendre le contrôle, écrit Duflo, reprendre le contrôle sur l'épidémie et l'économie, y compris l'économie sanitaire. Le problème, c'est que jusqu'ici, l'absence de vaccin empêche une contre-offensive et beaucoup comme la France ont donc choisi l'endiguement qui est coûteux et trop lent pour le virus, un entre-deux inefficace, voire contre-productif, dit Christopher Dembick de Saxo Bank dans le Figaro. Autrement dit, on ne fait pas la guerre avec des compromis ou alors on la fait mal.
D'ailleurs, d'autres États européens ont déjà décidé un reconfinement avant les fêtes de Noël.
Oui, reconfinement dans toute l'Irlande et au Pays de Galles, reconfinement local en Espagne et en Allemagne. En Belgique, l'économiste Eric Dor aussi propose un reconfinement préventif de 3 semaines en novembre pour sauver le chiffre d'affaires vital des entreprises pendant les fêtes. Reste à savoir maintenant les modalités qu'il prendra en France, son extension géographique, les secteurs qu'il touchera et puis l'arbitrage délicat concernant le télétravail ou les lieux d'enseignement. Le débat avait d'ailleurs été vif en Israël, premier pays à reconfiner et qui a laissé tourner les entreprises à forte contribution au PIB, mais qui a dû sacrifier les fêtes de Yom Kippour et les commerces qui en profitent. Alors Noël vaudra-t-il un reconfinement? Emmanuel Macron, qui parlera demain, ne donnera peut-être pas raison aux éminents chercheurs, mais ceux qui ont ricané à la proposition d'Esther Duflo vont peut-être se avisé, prévient l'épidémiologiste Dominique Costaglia, dans le JDD. Comme toujours, donc, la victoire des Cassandres est amère.
Merci beaucoup Xavier Martinet pour ce journal de l'Écho et on vous retrouve donc demain. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levacher. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Demain, ce ne sont pas les caves, mais les contes du Vatican que nous allons explorer. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.